Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Amiens, c'est Hugo pour Info Club Sandwich. Et aujourd'hui, je reçois le collectif Éthique sur l'étiquette, Anne-François Davis et Charlotte Nice, bonjour.
Bonjour.
Alors dans votre actualité, il y a ce café citoyen organisé par la Maison des Associations d'Amiens Métropole, auquel vous allez prendre part, donc c'est lundi 16 décembre, lundi prochain, au bar Le Lutetia à Amiens. Sur le sujet, une mode éthique est-elle possible? On vous retrouvera aussi pour la séance débat au Ciné Saint-Leu, mercredi 18 décembre, donc mercredi prochain, autour du film Made in Bangladesh. Voilà, toute cette actualité, on va l'évoquer dans cette émission. Mais avant de rentrer dans les détails, est-ce qu'on peut présenter un peu ce collectif, donc éthique sur l'étiquette, collectif national. Et donc c'est la première fois qu'on vous reçoit sur cette antenne, donc c'est l'occasion de faire une petite présentation.
Le collectif Éthique sur l'étiquette existe depuis 1995. Comme son nom l'indique, c'est un collectif d'une vingtaine d'organisations, de solidarité internationale, de syndicats de salariés et aussi d'associations de défense des consommateurs. Et en fait, il appartient à un mouvement international plus grand qui s'appelle le Clean Clothes Campaign.
Oui.
Donc, avec la même insistance sur le...
Alors, la défense des droits humains au travail dans le monde et la promotion d'un encadrement contraignant dans l'activité des multinationales. Parmi ces organisations, vous avez ActionAid France, la CCFD, Terre Solidaire, CFDT, le CRID, la Fédération Artisans du Monde, la JOC, la Ligue de l'Enseignement, Oxfam, par exemple.
Et alors à l'échelle d'Amiens, c'est un groupe local, c'est un collectif
Oui, on est en train de lancer un peu plus précisément le groupe local et on a déjà des relations avec par exemple le CCFD, Artisans du Monde, qui sont nos partenaires les plus importants localement.
Alors parmi vos actions, vos revendications, donc il y a la lutte contre l'exploitation, la surconsommation, il y a aussi tout un côté sensibilisation, donc vous sensibilisez les consommateurs justement à toutes ces notions-là. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples d'actions concrètes qui sont portées par le collectif en France?
Oui, alors sur l'information du consommateur, ça n'est effectivement qu'un pan de l'action du collectif. Et régulièrement, il y a des campagnes, soit à l'occasion d'événements, comme par exemple sur lors d'événements sportifs, mais aussi lors de grandes négociations internationales, ou bien lors de, par exemple, l'anniversaire de Rana Plaza, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Tous ces événements sont des occasions de manifester d'une manière ou d'une autre.
Il y a une pétition qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, Stop Impunité. Donc on vous encourage à la signer. Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales. L'Union européenne doit agir contre l'impunité des multinationales, donc à voir sur les réseaux sociaux.
Alors vous-même, comment vous avez entendu parler de ce collectif et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager justement dedans?
Moi, c'est par mon syndicat qui fait partie de ce collectif. Et j'ai découvert ça il y a bien des années. Et maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, j'ai trouvé que c'était intéressant de continuer l'action localement, parce qu'il n'y avait pas de groupe local. Alors d'une part, parce que en tant que syndicaliste, ça m'importe de soutenir les droits des citoyens et des travailleurs, même à l'autre bout du monde. Et puis aussi parce que, comme j'étais prof avant, ça m'intéresse aussi de former d'informer les jeunes, en particulier sur la façon dont ils consomment et les conséquences que notre consommation a dans le monde, sur le plan des droits et aussi bien sûr sur le plan environnemental.
Alors justement, oui.
Ex-enseignante aussi.
Ah oui, oui.
je suis encore tout à fait sensibilisée au mode de consommation des jeunes et à ce qu'on appelle la fast fashion. Donc quand même, beaucoup de nos élèves sont encore victimes et qui posent vraiment problème actuellement.
Alors là, on a entendu pas mal parler de vous, notamment à l'occasion du Black Friday.
Tout à fait.
Il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été portées.
Contre Amazon, contre la surconsommation, tout à fait.
Oui, contre Amazon, parce qu'Amazon, c'est typiquement un représentant du modèle contre lequel on lutte, qui encourage la surconsommation, qui provoque une quantité de déchets absolument énorme. Et Amazon ne se contente pas de vendre d'immenses quantités d'autres produits, mais elle a aussi ses propres produits sous différents noms, sous différentes marques. Et on sait maintenant qu'elle s'exonère de beaucoup des accords qu'on peut réussir à mettre en place internationalement, particulièrement par exemple au Bangladesh. Amazon continue à employer des gens dans des usines qui ne sont pas sûres, qui sont hors du circuit reconnu par l'accord qui a été mis en place avec les salariés.
Et comment on peut lutter justement contre ça? Alors c'est justement en se regroupant, en faisant aussi prendre conscience au grand public de tout ça. Comment on peut peser justement?
Il y a une action au niveau national et international d'interpellation, de plaidoyer. Et c'est là qu'on rejoint beaucoup d'autres organisations. Pour d'une part interpeller les enseignes de grande distribution, ça se fait depuis des années. Et ça se fait particulièrement depuis que l'opinion publique a été sensibilisée à ce problème à la suite de l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, il y a 6 ans maintenant. Alors c'est en demandant respecter les droits et puis donner un salaire vital aux travailleurs et aux travailleuses sourds de l'industrie textile. Et puis alors, de l'autre côté, il faut aussi interpeller les pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics ont une capacité à imposer des droits, à imposer des devoirs aux multinationales, d'où le titre de la pétition qu'on vous invite à signer. Et puis du coup, on a aussi le troisième volet qui est d'informer les citoyens de façon à ce qu'eux-mêmes aillent poser des questions, eux-mêmes se posent des questions sur la façon dont ils consomment.
Oui, prennent du recul justement sur leurs propres pratiques.
Ouais. En discutent, posent des questions dans les magasins et puis éventuellement se joignent à nos actions effectivement quand on en propose.
Alors des actions qui peuvent être des conférences, des expositions, des interventions aussi en milieu scolaire. Donc il y a ce café citoyen qui arrive, donc une mode éthique est-elle possible? C'est donc lundi prochain de 18h à 20h au bar Le Lutetia, c'est rue Saint-Leu à Amiens. Donc un café citoyen auquel vous allez prendre part aux côtés des Robin et Robin d'Ébène, de l'association aussi En Savoir Plus. Donc le but c'est quoi? C'est d'échanger, le public aussi j'imagine pourra poser des questions
Oui, tout à fait. C'est différentes associations qui œuvrent localement sur un peu le même thème. Chaque association est un peu différente, mais avec les mêmes préoccupations, en fait, d'éviter le gaspillage, de se poser des questions sur sa consommation et d'avoir recours à d'autres façons de se comporter en termes de consommation.
Il y a des solutions très individuelles que n'importe qui peut mettre en œuvre, comme privilégier le coton bio, ou ceux avec label, privilégier le coton recyclé, privilégier les fibres moins gourmandes en eau. On sait que le coton est très 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 gourmand en eau, comme le lin et le chanvre. La France est quand même le premier producteur mondial de lin, à savoir. Et surtout, ne pas acheter autant de vêtements, mais les garder plus longtemps.
Ouais, ça, puis il y a de plus en plus de marques, d'initiatives comme ça qui portent vos valeurs, qui sont lancées. J'imagine oui. Voilà, en se renseignant un peu sur Internet, on peut trouver du coup un certain nombre de marques responsables.
Mm-hmm. C'est difficile pour le collectif d'indiquer des marques et de faire la publicité pour celle-là. Mais la démarche, effectivement, d'aller voir sur Internet, de poser la question, de toujours regarder. En plus de la description de la matière, etc., de regarder où c'est fait, de regarder quels engagements la marque prend, c'est très important. Et les marques y sont de plus en plus sensibles quand même.
Et justement, au niveau de la prise de conscience du ce que j'appelle le grand public, de l'opinion, est-ce que vous trouvez qu'on a progressé ces dernières années?
Oui. Oui, je pense, oui. On parlait de fast fashion tout à l'heure. Je crois qu'il y a quand même, dans beaucoup de personnes, un rejet de la surconsommation, de la société de consommation en tant que telle. Je crois qu'il y a des progrès quand même. Je pense
depuis 2-3 ans. Ça fait longtemps qu'on évoque ces questions, mais depuis 2-3 ans, on sent vraiment un mouvement, comme sur d'autres aspects de la prise de conscience. Ça fait partie de la prise de conscience
écologique, environnementale, mode de vie.
Ça va dans le même sens, tout à fait.
Et alors, j'imagine que voilà, quand vous êtes confronté à des publics qui connaissent pas forcément, qui s'intéressent pas forcément déjà à ces sujets, à ces notions, il faut pas les culpabiliser. Comment on peut leur parler de comment on peut parler de ces sujets justement
Ben non, tout à fait. C'est pas la peine de pointer du doigt. Il faut essayer de faire preuve d'un peu de pédagogie et par exemple donner des exemples. Par exemple, on parlait tout à l'heure entre nous de quelque chose qui a été proposé par Zara, qui est une de ces grandes marques qui est leader sur le marché, assez discrètement d'ailleurs, et qui a lancé un sweatshirt qui s'appelle Respect.
En sachant que Respect est donc un détournement de la façon dont Zara l'a commercialisé, c'est un détournement de ce contenu fort chanté par Aretha Franklin, affirmant le droit des femmes au respect, et qui est devenu un sweatshirt totalement détourné par Zara. Et quand on analyse la répartition réelle de la valeur de ce produit phare, on se rend compte que Zara fait énormément de profit aux dépens des travailleurs, aux dépens des salariés, dans les pays où ce sweatshirt est fabriqué.
C'est-à-dire que rien que le bénéfice de Zara sur chaque sweatshirt est à peu près deux fois plus que ce que toute la chaîne de fabrication reçoit. Bon, pas le tissu, pas les transports, etc., mais les fabricants, les ouvrières reçoivent moitié moins que le bénéfice net de Zara, par exemple.
Dans quel pays ils sont produits ces pulls? Est-ce qu'on a une idée?
Je crois que c'est en Turquie.
En Turquie, oui. Ils sont produits en Turquie, oui.
Ouais, donc beaucoup aussi de vêtements, d'habits qui sont produits au Bangladesh.
Ouais.
Justement, donc vous animez mercredi prochain, mercredi 18 décembre, donc cette séance débat autour du film Made in Bangladesh de Rubaiyat Hossein. Et donc le Bangladesh qui est un des... je crois que c'est le deuxième pays
de fabrication textile. C'est et ça. Surtout pour un petit pays, ça représente 80% de leurs exportations et de leurs sources de financement. Donc c'est énorme.
On a parlé du Rana Plaza tout à l'heure. Tous les ans, c'est vrai, ESE marque l'anniversaire de l'effondrement du Rana Plaza en avril 2013. 1135 morts pour 2500 rescapés. C'était quand même le symbole des abus de cette surconsommation, de cette industrie textile ailleurs qu'en France.
Alors le film, il se place d'ailleurs un peu à cette époque-là, dans ces années-là, disons. Depuis, il y a eu des progrès. À l'époque de l'effondrement du Rana Plaza, une ouvrière gagnait 28 euros par mois. Alors ça a progressé, parce que maintenant c'est 50-60 par mois. Mais pour avoir un salaire vital, c'est-à-dire un salaire qui ne soit pas juste minimum, qui permette de vivre correctement, il faudrait à peu près trois fois plus encore. Et en Turquie, c'est pareil. Ils reçoivent un salaire qui est beaucoup plus important en euros, mais pour avoir de quoi vivre vraiment, il faudrait aussi multiplier par trois ou quatre.
Et on sait bien que les multinationales ont largement les moyens d'absorber, d'absorber ces montants en acceptant une redistribution de la valeur qui devrait conduire à un autre modèle économique.
Alors, dans ce film, pour revenir un peu sur le pitch, donc on suit le soulèvement d'une ouvrière en particulier, donc justement face aux conditions de travail.
Conditions de travail, ouais, c'est ça. Sa tentative d'imposer un syndicat pour pouvoir discuter les conditions de travail et les salaires avec les employeurs. Et on découvre quelle galère c'est pour pouvoir faire reconnaître des droits qui pour nous sont absolument élémentaires.
Alors ce film, vous avez déjà eu l'occasion de le voir?
Oui, je suis allée à la projection lors du festival du film.
D'accord. Et l'échange, un film qui a été primé d'ailleurs.
Qui a reçu deux prix au festival du film, effectivement. Dont le prix du public, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est un film, c'est très bien fait, c'est très touchant. On suit vraiment l'émancipation en plus d'une jeune femme au courage admirable dans les circonstances. Et qui réussit à aboutir son projet.
Ouais, donc Votre collectif, donc Éthique sur l'étiquette, est partenaire d'ailleurs du film avec d'autres collectifs, associations.
Oui, c'est ça, on accompagne sa sortie. On a accompagné sa sortie au début décembre, un peu partout en France. Là, il est en train d'être diffusé et je crois qu'il a une réception tout à fait importante.
Ouais. Oui, donc il y a cette séance débat, donc mercredi 18 décembre à 18h30. Et puis, il y aura d'autres séances aussi qui sont organisées. On peut retrouver tous les détails sur notamment le site du ciné Saint-Leu. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? On peut retrouver, alors je précise qu'on peut retrouver un certain nombre d'informations et d'outils aussi, de ressources documentaires sur le site, hein, de éthique sur l'étiquette. Et on peut et du coup donc il y a ce groupe local, ce collectif à Amiens qui se constitue. Prochainement on pourra vous entrer en contact avec vous, comme d'ailleurs s'il y a des auditeurs auditrices qui souhaiteraient se renseigner ou vous rejoindre.
Alors il y a un site national de éthique sur l'étiquette, donc oui. Éthique sur l'étiquette .org, mais on a une page locale et puis on a une page Facebook aussi. Et on va mettre en place une adresse mail plus précisément pour que ce soit plus simple de nous contacter.
Voilà. D'accord. Sur Facebook, il faut taper quoi ?
Faut taper Éthique sur l'étiquette Amiens.
Éthique sur l'étiquette Amiens. Ok. Voilà. Bah, merci pour toutes les informations pratiques. Et merci d'être venu nous rendre visite donc, dans les studios de Radio Campus Amiens. Et on sera amené à se revoir forcément dans l'année 2020. Voilà, vous êtes les bienvenus. Donc Anne-Françoise et Charlotte du collectif Éthique sur l'étiquette. Merci encore.
Merci à vous.